Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule pour Play, avec aujourd'hui des gens exceptionnels. Thomas Poussou est avec nous. Thomas,
je suis exceptionnel, bonsoir.
Tu es exceptionnel. Flavie Garnier est avec nous également.
Bonsoir.
Et Macha nous fait l'honneur d'être avec nous également. Macha, ça va? T'as la pêche, t'as la
forme? Ça va, merci, bonsoir tout le monde.
Donc ce podcast sera diffusé également sur le blog de Macha, apparemment en vidéo. Ça a été filmé avec un Lumix.
Macha, je pense qu'il serait bon que je prenne ton appareil photo et que je te filme.
Non, c'est bon, je ne vais pas continuer toute la soirée, rassurez-vous.
D'accord, hein. Ok, bon. Et donc aujourd'hui, un thème fantastique qui ne concerne absolument pas la vidéo, mais qui concerne la musique.
Ah, j'ai trouvé, c'est trop fort.
Oui, forcément, Macha est avec nous, hein, présentatrice d'oscillation.
Ah oui, si on avait quand même pas à prendre un truc spécial jeu de rôle
en
alors
plus,
que t'étais là.
Elle n'y connaît rien.
Ils sont trop sympas.
Tu ne joues pas au jeu de rôle, Macha?
Ils sont trop sympas. Je suis une noob en jeu de rôle, hein, je vous avais prévenu en plus.
Alors, est-ce que tu as déjà fait du jeu de rôle quand même, un minimum?
Une fois dans toute ma vie entière.
T'as joué à quoi?
Je sais même plus.
Oh, t'as joué à du ADD ou à du
Vampire? C'était la toute première fois de toute ma vie entière. C'était il y a 5 ans peut-être. Et je me souviens de rien du tout. Je me souviens juste que c'était super compliqué, que j'ai rien pigé.
Un jeu de rôle apparemment assez
super
technique.
Super compliqué.
Donjons et Dragons.
Donjons et Dragons.
Est-ce qu'il y avait une boîte rouge?
Je sais vraiment plus.
Est-ce qu'il y avait des monstres? Est-ce que c'était fantastique?
Je pense que oui.
Dans ces cas-là, ça élimine environ 10% des jeux de rôle et il nous reste 90%.
Non, mais cherchez pas, avec des monstres, cherchez pas, nickel. Je m'en souviendrai pas, hein, y a pas moyen. Mais oui, donc je n'ai pas beaucoup d'expérience dans le domaine, effectivement.
Pas de souci.
C'est pas grave.
Bon, on va faire une partie ce soir. Hein.
Ouais, il va falloir faire une partie. Bon, en tout cas, la musique. Ce soir, la musique. Comment mettre l'ambiance dans une partie de jeu de rôle?
Oui, la musique.
Vous avez compris, la présence de Macha déchaîne les foules ce soir.
Ouais.
Oh, putain. Alors, Thomas, est-ce que tu utilises la musique en JDR? Et si oui, comment? Et si oui, pourquoi?
Et sinon, est-ce que j'ai besoin de justifier?
Eh bien, sinon, tu peux passer ton tour et passer la parole à Flavie Garnier.
Donc, oui, cela m'arrive de passer de la musique parce que j'ai des joueurs qui, quand j'en mets pas, font « Attends, j'ai ramené mes musiques spécialement pour le scénario.
C'est pas de quoi.
Ah, je ne sais pas, je ne dirai rien.
Brillant.
Donc oui, cela m'arrive de mettre de la musique en jeu de rôle. Et comment j'utilise? Ben, je prends mon PC, je me prends ma musique en format MP3, je l'ouvre par mon lecteur et je double-clique et ça se diffuse. C'est ça ta question?
Alors, je veux bien que tu nous expliques maintenant le mécanisme physique de la propagation du son dans l'air. Vas-y, poursuis ton explication, on t'écoute.
Alors, j'irai pas jusque-là, j'irai peur de noyer nos auditeurs dans trop de détails techniques.
D'accord.
Non, mais en fait, l'intérêt de la musique, en tout cas en jeu de rôle, c'est un moyen de mettre l'ambiance,
d'accord.
De faire un type d'immersion. Et surtout, c'est un bon moyen de faire en sorte de plonger les personnages dans une ambiance qu'on veut imposer.
D'accord.
Genre, exemple. Un exemple que je cite souvent, et ben quand tu utilises souvent les mêmes musiques de baston, dès qu'il y a une scène de baston, dès que les gens entendent les trois premières notes, c'est bon, ils sont d'attaque, ils sont prêts à blaster tout ce qu'ils peuvent. À choper des immeubles, choper les gros guns, buter tout le monde,
déposer
de la dynamite.
C'est la même chose dans les séries, quand tu as l'habitude d'entendre des thèmes de personnages ou dans les films, bah, dès que tu entends le thème du personnage que tu aimes bien, tu es là, ouais, il est là, trop bien.
Mais pour la baston, tu veux dire que la musique, ça excite direct les joueurs, ça les...
Oh bah ça les fait comprendre direct avoir de la baston, donc c'est bon, frites. Si je veux mettre plutôt une musique sombre qui fait peur, quand ils entendent les trois premières notes, c'est bon, les gars, ils savent qu'il va se passer un truc, quoi.
D'accord.
Et donc ils vont être au taquet, ils vont marcher, ils vont faire attention.
Sur Sens, la musique de baston, dès qu'on entendait ça, on était pile poil dedans.
C'est interdiction dans ce podcast, même si c'est un podcast sur la musique, pour toi, de chanter.
Si.
C'est interdit.
J'ai dit avec Pierre qu'on n'en avait rien à faire de votre interdiction et qu'on chanterait même si vous n'étiez pas d'accord que Pierre et moi on chante.
Je m'en fous, ça finira en jingle. Je m'en fous, j'irai pas au casse-pipe tout seul. Ça finira en jingle sur la radio.
Dis-toi que j'enseigne la musique à Odé tout petit, c'est pire que toi.
Oh la vache. Et Macha qui disait tout à l'heure que c'était toi qui allais forger leur avenir.
Je forge leur oreille. Comme l'avait dit quelqu'un qui était venu me voir, vous avez déjà pensé à utiliser des CD?
Alors justement, à propos de personnes et de CD, là, est-ce que tu utilises de la musique, toi, Flavie?
Oui.
J'ai l'impression que oui, parce que tu avais l'air de plus soyer.
Et tu l'as fait à la bouche aussi?
Oui, non. Évidemment.
Ah, c'est pour ça que tu ne maîtrises pas souvent des tables, alors.
Oh,
non, je suis à côté, en fait, et je chante.
Le présentateur va devoir taper du poing sur la table. Eh oh, les gars, on fait un podcast, je vous rappelle, ça parle de GDR. Ok, alors, donc, la musique.
Oui.
La musique en jeu de rôle, tu l'utilises pourquoi? Qu'est-ce qui te...
Première chose, moi, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup de films. Et moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir de la musique pour créer des images dans sa tête.
Donc ça, donc, te sert
ça me sert à mettre vraiment dans l'ambiance, même en tant que maître de jeu, je trouve ça important. En plus, excusez-moi, Romain vient de faire tomber son sachet dans le thé.
C'est pas drôle. Oh putain, voilà. Bon, ceux qui ont la vidéo, ils verront rien.
Voilà, et du coup, moi j'ai besoin aussi d'avoir des thèmes sur certains personnages, voilà, comme au cinéma. Donc j'ai besoin d'avoir le thème de mon grand méchant, le thème de mes héros, surtout à la table. Donc à chaque début de scénar, ils ont chacun un moment seul et à chaque fois, je mets leur musique.
D'accord.
J'ai aussi des trucs tout simples hein, pour des listes qui sont préparées pour des moments calmes, des moments de combat, des moments de doute, etc. pour faciliter D'accord. le truc. Et j'ai des thèmes.
Alors moi, ce qui me fait halluciner, c'est que dans les deux cas, on a une version, en fait, une idée de la musique comme posant l'ambiance et mettant les joueurs dans une situation ou dans une autre. Une situation d'excitation si c'est du combat ou alors une situation, d'admiration pour un personnage. Pour moi, il y a aussi
le thème. Bah oui, mais
la tristesse,
non,
etc.
Le thème pour un personnage, ça va au-delà. C'est quelque chose qui, au final, devrait même se décider. C'est d'ailleurs ce que je fais souvent avec la personne qui va jouer le personnage. Parce que c'est le truc.
C'est même des thèmes pour les personnages, joueurs.
Avait choisi un Nima, Céd, il a toujours choisi les siens, Pierre, il a toujours choisi
les
siens.
Pourquoi est-ce que la musique est si efficace pour foutre les gens dans une ambiance particulière? Qu'est-ce qui fait que la musique nous fait d'un coup passer en mode excitation, etc. Macha, est-ce que tu as une idée? La musicologue de service.
Alors, dans un premier temps, c'est tout d'abord une histoire culturelle, parce que la musique qui nous met, nous, dans une ambiance particulière ne fera absolument pas le même effet à un Japonais ou à quelqu'un qui a grandi en Afrique ou qui a grandi en Inde, parce qu'il n'a pas du tout la même musique culturelle que nous. Donc D'accord. déjà, faut pas généraliser, la musique n'a pas le même effet sur tout le monde. Donc ce qui vous fait peur ou ce qui vous met dans une humeur belliqueuse, ça va pas du tout avoir le même effet sur quelqu'un d'une autre culture.
Un son long et plaintif, par exemple, ne fera pas le même effet, même absolument sur un Africain, n'aura
pas l'effet pas.
De...
Absolument pas, c'est vraiment culturel.
C'est culturel.
On peut, quand on parle de musique, tu me parles pas de sons sinusoïdaux là, qui vont avoir un effet strictement physique sur le tympan. On parle bien de musique.
On parle de musique.
Dans la mesure où on parle de musique, c'est strictement culturel.
J'ai une petite question du
coup. Je t'en prie.
Voilà, on est dans une époque où il y a quand même une grosse mondialisation de la culture. Et je pense aux musiques de Silent Hill qui n'ont pas dû être créées pour donner envie aux mecs de danser, en fait, hein, tout simplement. Et moi, je suis désolée, elles me font flipper les musiques de Silent Hill et les Japonais aussi.
C'est culturel. Ouais. C'est culturel. Bon, après, on est d'accord que, effectivement, quand on va dans les pays, entre guillemets, civilisés, qui ont accès aux mêmes.
Occidentaux,
même médias que nous, même pas forcément occidentaux, mais qui écoutent un petit peu la même, qui écoutent les mêmes choses que nous. Ça, c'est un peu généralisé, on est d'accord. Mais si vous allez dans une jungle en Australie et que vous leur faites écouter la musique de Silent Hill, ça va absolument pas leur parler. Ils vont même pas trop comprendre ce qu'ils entendent. Tout comme nous, on va pas comprendre forcément la signification que peut avoir leur musique pour leur culture.
Donc ça veut dire que si on fait des scénars avec des gens qui n'ont pas forcément la même culture que nous, on va devoir mettre des... Donc ça ne marche pas, le coup des musiques.
Ça ne marchera pas.
Si vous prenez effectivement un aborigène
qui
n'a jamais entendu la musique occidentale, ça ne marchera absolument pas pour lui, bien évidemment.
D'ailleurs, quand on regarde tes habitudes, par exemple, à toi, Flavie, tu mets souvent des musiques de films que tu aimes bien. Je prends le cas des crimes, par exemple, que tu nous as illustré avec la musique de la leçon de piano. Voilà, c'était...
Ah, Michael Nyman.
C'est
trop bien, Michael Nyman.
Toi, ça te fait rêver comme ambiance. Du coup, moi aussi.
Non, c'est... Enfin,
maintenant, je l'associe avec
Qu'est-ce
crime,
que ça me fait rêver? Oui non, c'est juste que c'était quand même quelque chose sur du steampunk.
Ouais, justement.
Et
qu'est-ce que
le steampunk, du coup, c'est quand même au niveau de la culture quelque chose qui est censé avoir évolué sans la seconde révolution industrielle.
Ouais.
Donc, je voulais quelque chose d'un peu différent au niveau du rythme, etc. Et c'est quand même quelqu'un, Michael Nyman, qui s'inspire de Cage. Donc, quelqu'un qui a travaillé, qui connaît bien le rythme du vide, entre guillemets. Et je trouvais que c'était important de mettre ce genre d'ambiance dans une ambiance steampunk.
C'est-à-dire que par exemple, toi, Macha, si on t'interroge pour te dire qu'est-ce que tu verrais comme musique pour un univers de science-fiction ou un truc comme ça, tu serais pas capable de nous répondre dans l'absolu ?
Si. Il y a des outils très classiques, mais encore une fois, c'est quelque chose qui nous est mis dans le berceau, si vous voulez, avec les musiques comme John Williams ou dans Star Wars ou les musiques dans Star Trek. On grandit un petit peu avec une certaine... comment on appelle ça quand on est formaté en un quelque sorte, on est conditionné pour associer certaines choses.
Donc
pour la science-fiction, on utilise souvent les cuivres et beaucoup de percussions pour faire un truc un peu héroïque. Mmh. Et puis, je dirais des bruitages électroniques, des choses comme ça, des bruits de synthétiseurs, des choses comme ça, enfin des sons futuristes.
Moi, par exemple, quand je maîtrise mes parties, donc j'utilise aussi de la musique pour les mêmes raisons que celles que Thomas a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, en fait, ça permet de mettre les joueurs dans une certaine ambiance. Par exemple, ça permet aussi de limiter la description. C'est con, mais on n'a pas 3 heures pour jouer un JDR à entendre le maître de jeu faire des descriptions interminables. Mm. Je vais par exemple mettre de la musique d'ambiance, genre des bruits, comme un marécage ou un truc comme ça, ce qui va m'éviter d'avoir à décrire l'ambiance et le sonore du marécage.
Et là, tu entends une grenouille croissée. Ben non, sur l'enregistrement, voilà. Tu entends la grenouille croissée.
Tu l'as. Mmh. Un orage, pas besoin de décrire qu'il y a de l'orage dehors.
Là, c'est pas de la musique, là.
Les joueurs, exactement. Là, c'est des sons. C'est vrai, c'est vrai. Mais même pour la musique, c'est pareil, si tu veux. C'est-à-dire qu'on va prendre, effectivement, des clichés occidentaux au niveau musical, et puis on va les mettre dans la scène. Comme ça, tout de suite, on se dit, ah, on n'a pas besoin de dire l'ambiance est oppressante. Mmh. On n'a pas besoin de dire qu'on est seul dans le vaisseau. La musique nous le rappelle.
Oui.
Cela dit, moi, je fais bien attention, et là, c'est ce que je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, je fais bien attention à ne pas prendre de musique canonique d'une série ou d'un film. Par exemple, jamais, quand j'ai maîtrisé mes jeux de rôle de Space Opera, je n'utilisais de musique de Star Wars parce que c'est trop connoté. C'est-à-dire que si on met du Star Wars, les joueurs vont avoir envie de jouer dans le canon Star Wars.
C'est logique, oui.
D'utiliser la force, etc.
C'est logique.
Donc, surtout s'ils connaissent, bien sûr. Et
oui.
Uniquement même s'ils connaissent.
Oui.
Et alors Star Wars, c'est tellement connu maintenant que voilà, quoi, c'est éculé, j'ai envie de dire. Quoi.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, ça pose la question de quelle musique on met. Et c'est vrai qu'on s'arrange toujours pour mettre de la musique qui n'a pas été beaucoup entendue autour de la table.
Par les autres.
Par les autres. Et même
nous, on a pu l'entendre plein de fois.
Ouais.
Nous, on a pu l'entendre plein de fois, mais pas par les autres.
Parce que par exemple, en plus de Michael Nyman, moi, je mettais des musiques de Tsubasa Chronicle. Et vous ne les connaissiez pas du tout.
Non.
Donc du coup, ça passait.
Thomas, peut-être Tsubasa Chronicle.
Non, je ne connaissais pas.
Ah, tu ne les connaissais pas ?
Non.
Ok.
C'est bizarre, okay. Un truc avec Sakura que tu ne connais pas.
Non, je ne le connaissais pas. Non, mais c'est pas de me tirer vers du nez, je ne connaissais pas.
Mais quoi qu'il en soit, la musique trop connotée, on évitait. Mais en tout cas, moi par exemple, je mettais de la musique de Metroid. J'étais le seul à être suffisamment hardcore gamer là-dedans pour avoir fait le jeu de fond en comble et connaître toutes les musiques par cœur. Metroid 3. Alors, donc. Voilà, et les autres joueurs les connaissaient pas. Et donc pour eux maintenant, les musiques de Metroid sont associées à Sens en fait.
Voilà, donc maintenant, quand tu joues à Metroid, j'ai l'impression que tu es en train de jouer à Sens quand j'entends les musiques.
C'est une fois, j'ai une anecdote là-dessus. C'est François qui se baladait à l'UFR de philo et qui chantait du coup ta ta la la ta 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 ta.
Interdit de chanter,
je m'en fous. Et donc il chantait l'ouverture de Metroid et là il y a quelqu'un qui leur fait oh Metroid. Et enfin je l'ai regardé, il fait bah non c'est Sens. Parce qu'il avait jamais connu Metroid.
Donc voilà, ça peut être...
Alors moi, j'ai une petite question pour les gens qui utilisent de la musique, parce que moi, c'est pas quelque chose que j'utilise principalement. Est-ce que vous écrivez au scénar en fonction de la musique ?
Oui.
C'est-à-dire que vous écoutez de la musique, vous dire voilà, je vais utiliser telle musique, donc je vais plutôt faire tel type de scénar.
Non, en fait, j'écoute les musiques que je vais utiliser pendant que j'écris le scénar, et c'est elle qui, entre guillemets, souffle un peu le scénar. Moi, j'ai besoin de musique pour écrire, même pour m'inspirer.
La musique conditionne même l'écriture.
Mm-hmm.
Et est-ce que tu connais des auteurs comme ça qui écrivent en musique ? Est-ce que
il
toi
y en
tu
plein. Non.
C'est...
Il y a Bernard Werber, tous ses débuts de bouquins, c'est des remerciements sur les musiques qu'il a écoutées pendant qu'il écrivait.
Mm. Moi, je sais que Fabien Hildwein m'a confessé l'autre jour qu'il n'écoutait jamais de musique quand il écrivait des scénars, parce qu'il jugeait en fait que la musique, ça s'écoute. Et point barre, il n'y a que ça à faire, il n'y a que écouter la musique. On ne peut pas faire autre chose en écoutant de la musique, à part respirer éventuellement, ça on a le droit.
Éventuellement.
Je suis tout à fait d'accord.
Mais bon,
je suis pas
c'est difficile
d'accord.
De faire autre chose quand il y a de la musique. Généralement, tu vas rester concentré sur la musique et ça te disperse. Enfin, moi, c'est mon avis. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui n'écoute pas énormément de musique. Il y a certaines musiques qui me plaisent parce qu'elles me procurent un certain nombre d'émotions. Donc, quand je les mets, si je veux faire autre chose et que c'est une musique qui me plaît, j'arrête de faire ce que je fais et je suis la musique.
Ah, c'est l'avantage d'être quelqu'un qui n'est jamais vraiment où elle est. Je peux faire plein de choses à la fois.
Alors, ce qui est très intéressant, justement, sur le, quand on parle de conditionnement, c'est que la musique, quand même, a tendance à évoquer quelque chose, des images dans notre tête, même si on n'est pas forcément déjà formaté. Je vois bien ça, j'ai beaucoup enseigné à des petits-enfants, donc la musique, l'éveil musical. Mmh. Donc je vois bien qu'avec un petit garçon de 4 ans, je lui passe de la musique qu'il connaît pas du tout, et ça va lui évoquer quelque chose. Après, je vais lui demander de me peindre quelque chose ou de dessiner un dessin en rapport avec la musique qu'il vient d'entendre, et je vais jamais avoir une feuille vide. Il va toujours avoir une image ou quelque chose qui est associé à la musique qu'il a entendue, mais pas forcément la même chose qu'un adulte qui sera déjà formaté parce qu'il a entendu plein d'autres musiques avant.
Ouais, je fais pas mal ça avec mes élèves en ce moment, l'éveil musical, et tu leur demandes de dessiner après avoir entendu du tam-tam, c'est énorme parce qu'en fait ils sont encore dans le mouvement, en fait ils sont uniquement dans le mouvement. Tu lui passes du tam-tam, mais genre il va te faire un truc de fou sur le dessin et tu lui fais goûter de la guitare hyper tranquille. Enfin, ça va être, la guitare hyper tranquille, il va dessiner comme s'il voyait les notes. Enfin, c'est génial.
Donc les rôlistes sont des grands enfants qu'il faut bercer avec de la musique. Dessine-moi un scénar en musique. Moi, le truc, c'est que je me sers de la musique pour écrire. Mais par contre, pour les scénars, non. C'est-à-dire, éventuellement, ça va m'inspirer. Et encore, pas trop. En fait, mes musiques, je les connais trop maintenant, Tom. Le truc, c'est que les musiques, j'ai tellement entendu ces musiques de Metroid.
Faut en prendre de nouvelles.
Mais non, c'est pas un reproche. Au contraire, c'est bien parce que tu vois, maintenant, quand j'entends les musiques de Metroid, je suis cash dans le sens, quoi. J'ai même pas besoin de me préparer, quoi. C'est direct. Et moi, la seule chose que je fais, c'est pour les scénars, c'est je prépare pas mes scénarios en fonction des musiques. Genre, dans mon scénar, je mets pas à ce moment-là passer telle musique, passer telle autre. Ce que je fais, c'est que je fais une playlist avec des musiques classées angoisse, ambiance, combat, tristesse, etc. Enfin, tu vois, des espèces de grands éléments comme ça que j'essaye de faire ressentir, des émotions que j'essaye de faire ressentir aux joueurs. Putain, maintenant que j'y pense, c'est quand même hyper... Enfin, je pense à ça parce qu'on a le regard d'une musicologue avec nous, mais maintenant que j'y pense, je trouve ça hyper moche, hyper flippant de se dire qu'on va classer les musiques comme ça, genre par grande émotion.
Mais c'est très logique pourtant.
Oui, c'est logique, mais je trouve ça gore de se dire.
T'avais aussi, je sais plus, une catégorie, c'était pour quand on rentrait dans des éléments très solennels, la catégorie solennelle, je crois. Mmh. Où tu mettais ça quand on rentrait dans des grandes églises.
Je sais plus comment c'était, c'est pas solennel, mais oui, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, je classais par ambiance, et puis quand j'avais besoin d'une ambiance, hop, je balançais la musique. Mais nous, on a appris à jouer en musique aussi parce que on jouait à la base le premier jeu qu'on a développé, ça restait quand même les Chevaliers du Zodiac.
Saint Seiya.
Et du coup, la musique des Chevaliers du Zodiac, qui est une musique super canonique justement, qui reste, enfin, nous incitait à jouer dans le canon des Chevaliers du Zodiac, quoi. Donc nous,
les premiers scénarios que t'as fait, tu les avais pas fait en musique au départ?
Ah, tout de suite.
Voilà, la différence, c'est vrai que entre vous, c'est que moi, quand j'ai commencé le jeu de rôle, il n'y avait pas de musique. J'ai passé des années à jouer sans musique. Et c'est effectivement en commençant avec vous que j'ai découvert la musique dans le jeu de rôle. J'ai fait, oui, c'est sympa, mais ça m'a pas procuré en tant que joueur une amélioration de mon jeu.
Même pour Chin, quand tu maîtrises.
Même pour Chin, même pour. Alors, attention, en tant que joueur, en tant que joueur, en tant que maître de jeu, la musique c'est génial parce que justement, ça conditionne tes joueurs. Quand je veux définir, je veux faire de la baston, je mets telle musique, je sais que les mecs direct ils vont être dans la baston.
En dehors de ça, c'est quand même sympa quand on fait des jeux historiques, d'essayer de retrouver de la musique à consonance de cette culture-là justement, et de la passer. Ouais, un jeu de rôle historique ou un jeu de rôle sociologique.
Je suis tout à fait d'accord. Voilà, en tant qu'MJ, la musique, moi je trouve ça pratique, effectivement, pour le conditionnement des joueurs. Mais en tant que joueur, moi qui ai de la musique ou pas, j'ai pas besoin de la musique pour apprécier le jeu. Peut-être que j'ai pas besoin de la musique pour imaginer une action. Tu vois, par exemple, tu disais je mets une musique de marée, une ambiance sombre.
Ouais. Alors ça c'est vrai.
Au lieu de faire une description, voilà, ouais. Je veux dire, tu vas mettre une ambiance sombre au lieu de décrire, tu vois, par exemple, tu es dans un sous-sol, tu vas décrire en fait le sous-sol qui est sombre, lugubre. Toi, ouais. Tu vas plutôt mettre la musique pour donner directement l'ambiance.
Carrément.
Moi, j'ai pas besoin de ça en fait, tu me fais juste une description rapide, direct dans ma tête, OK, je sais que là je vais avoir les boules. Et j'ai pas besoin de la musique.
D'accord,
en tant que joueur, la musique, c'est vraiment pas primordial. Je trouve même que c'est pas forcément un plus. Moi, ça me fait ni chaud ni froid.
Ouais, est-ce que la musique... Flavie, tu voulais dire quelque chose?
Je voulais juste dire qu'au final, le moment dans, entre guillemets, ma vie de rôliste, hein, où j'ai eu les plus grosses émotions d'immersion, c'était un jeu de rôle qu'on a fait sans musique, c'était à Dogs in the Vineyard et c'était dû au système. Maintenant, la musique apporte quand même un plus.
Tu veux dire que le système est plus important que la musique ?
Ce système does matter. Oui, le système est plus important que la musique, mais la musique, c'est quand même un plus sur certains jeux de rôle, mais pas pour tous.
Pourtant, moi, en tant que rôliste, hein, je change toujours le système de jeu. Hein, Thomas ?
Bah, toi, oui. Tout le temps. La preuve, tu dis dans tes podcasts comme quoi les quadrillas peuvent changer de côté alors que dans tes règles, tu dis que tu peux pas.
Ta gueule.
C'est ce qui change les règles, hein, hein.
Ah, les coups bas. Ah, désolé, ceci n'est pas sur Play, ça c'est dans le dans les podcasts de la cellule. Bref, oui, mais en fait, je trouve que la musique c'est important, mais pas pour tous les jeux de rôle. Je pense que ça peut être important, tu disais Saint Seiya et ce genre de choses, quand tu as besoin de faire jouer des choses canoniques. Mais quand tu fais un scénar...
Quand tu dois respecter un canon esthétique ou, on va dire, culturel, que ce soit Star Wars, Indiana Jones, Saint Seiya ou ce que tu veux, la musique, c'est vraiment indispensable.
Ça t'apporte quelque chose comme ça ?
Nine !
Quoi ?
Non, je ne suis pas d'accord.
Je ne suis pas d'accord non plus, en fait.
Ah ouais.
On a fait du Saint Seiya. Alors, on est d'accord, on a fait du Saint Seiya avec les musiques de Saint Seiya. Alors, Chevalier de Zodiac, comme on connaît, c'est les super-héros, chevaliers de l'eau de Poufias qui n'arrête pas de crever tout le temps.
Athéna,
voilà. Athéna. Donc, logiquement, héroïque, on est là pour sauver les gens. Et pourtant, nous, on a fait du Saint Seiya, on jouait des chevaliers d'Hadès.
Ouais.
Donc, le côté héroïque, épique, ça n'existe pas du tout. Pourtant, on jouait avec les musiques de Saint Seiya.
Alors excuse-moi, mais dans les musiques de Saint Seiya, il y a quand même plein de musiques qui décrivent les enfers. Enfin, souviens-toi de ces
les musiques
les
de Gaston.
Les trucs de cancer et tout.
Les musiques de Gaston, c'est tadam, 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 tadam.
Ah, d'accord, ok, ouais, d'accord, mais enfin
et
bon.
Et on critique ma façon de chanter. Hein.
Stop. Macha voulait prendre la parole. Pas
oui, alors je vous ai un petit peu écouté là maintenant.
Bon, maintenant,
on va se faire gronder. Personnellement, j'ai jamais joué vraiment à un jeu de rôle, hein, autant dire ça comme ça. Donc, je sais pas exactement de quoi ça peut avoir l'air. Mais à vous écouter là comme ça, je trouve en fait assez dommage de réduire la musique. Vous la mettez dans le même pot que les ambiances sonores, là, pour le coup. Je vous écoute et en fait, oui. des bruits de grillons ou de grenouilles.
Moi, je ne mets jamais de.
Vous les mettez au même niveau qu'une musique, une vraie musique, une vraie composition. Et je trouve un peu dommage de réduire la musique à ce rôle-là. À une musique de fond qui, finalement, ne fait que créer une ambiance et rien de plus.
Dans le jeu de rôle, quand on revient tout à l'heure à ce que disait Fabien, la musique, c'est fait pour s'écouter. Donc, tu mets une grosse composition, tu es là pour l'apprécier. Dans le jeu de rôle, si tu commences à mettre des musiques comme ça pour que les gens l'apprécient à l'écoute, c'est pas ce qu'on demande en jeu de rôle. En scénar, on est là que pour donner une ambiance. Ça ne va pas plus loin.
En jeu de rôle.
Oui, mais...
Mais attends, c'est super intéressant.
En fait, si on compare par rapport à un film où tu peux commencer à mettre de la vraie musique.
Justement, j'allais vous parler des films.
Alors, vas-y.
Justement, j'allais vous parler des films et de la facilité que se permettent les metteurs en scène aujourd'hui de surcharger leurs films en musique pour, en fait, compenser la médiocrité. De leur mise en scène et du scénario du film. Et je trouve ça juste... je trouve que c'est une facilité, en fait, d'utiliser la musique pour compenser quelque chose qui manque dans la richesse du scénario et la richesse de l'image. Mmh. Et ça se fait très, très souvent. Et quand je vous écoute, je ne vous dis pas que vos scénarios ne sont pas riches. C'est certainement le cas. Simplement,
surtout que les scénarios, ce n'est pas nous qui les faisons, c'est les joueurs autour de la table.
Voilà. Donc, bon, je ne dis pas ça du tout. Mais ça le fait un tout petit peu sonner comme ça pour moi. C'est-à-dire, vous dites, je ne me fais pas chier à créer l'ambiance avec mes paroles, avec mon scénario. Je fuis dans la facilité. Mmh. Je mets un morceau.
Mais je t'ai dit tout à l'heure que c'était horrible la manière dont on en parlait.
C'est un peu dommage, effectivement. Ouais. Je trouve ça un petit peu dommage, même si je comprends totalement la démarche.
Qu'est-ce qui se passe,
ça me fait penser à quelque chose que Frédéric Sainte nous a dit un jour à propos de la musique.
Vas-y.
Synthèse, pardon. Il disait que lui, maintenant, il avait juste deux, trois musiques, mais qu'il jouait de moins en moins avec la musique, parce qu'il trouvait que c'était dommage qu'il y en ait tout le temps. Et que du coup, il gardait la musique juste pour certains moments.
Exactement. Je trouve ça plus intelligent.
Où il avait un gros perso qui arrivait, ce genre de choses, qui étaient du coup des vrais thèmes. Et au final, il jouait quasiment maintenant sans musique.
Alors moi, j'aimerais juste expliquer en fait ce que je pense pouvoir expliquer le sentiment que tu as. C'est qu'en fait, on utilise la musique, on l'utilise comme un outil. Alors que la musique c'est pas un outil en fait, la musique.
Elle peut être un outil pour véhiculer une émotion, pour véhiculer une ambiance.
Donc ça devient artisanal.
Je n'ai rien. Non, je n'ai rien contre ça. Il y a même des musiques qui sont composées spécifiquement pour ça, des musiques d'ambiance justement, qui sont prévues pour passer en fond. Elles ne sont pas du tout prévues pour être écoutées d'une oreille réellement éveillée. Mmh. Mais par contre, c'est exactement ce que tu disais à l'instant, c'est Flavie. Que justement, c'est dommage de surcharger en fait le joueur de morceaux de manière continue, parce que la musique, elle a un rôle beaucoup plus important quand elle est précédée d'un silence, même d'un silence prolongé.
C'est pour ça que j'utilisais Michael Nyman à la base.
Avoir beaucoup plus d'impact. Et ça, je suis déjà beaucoup plus d'accord avec cette façon de faire. D'accord. Plutôt que de faire une playlist qui dure pendant toute la soirée et pendant tout le jeu. Quoi.
Donc c'est vrai que généralement, ce qui se passe, c'est que les meneurs mettent des playlists en fait en fond. Alors moi, je fais pas ça. J'ai une playlist, mais je vais chercher les musiques dont j'ai besoin pour la scène. Mais il n'y a jamais de silence dans mes parties, effectivement.
Donc en fait,
Je ferai le test. J'essaierai de plus mettre de musique tout le temps, de laisser des silences.
Le travail que tu fais ressemble quand même assez au travail d'un compositeur de musique de film.
D'ailleurs, il y avait une très très bonne parodie qui en avait été faite de cette utilisation-là dans Team America, qui est le film qui a été fait par ceux qui font South Park, où il y a un moment ridicule où l'un des héros du film se met à vomir pendant plus de 2 minutes.
Ouais.
Et en fait, la scène la vaut parce que en fait, c'est une façon de se foutre de la gueule de la façon dont on utilise la musique. T'as une musique rocambolesque, incroyablement triste au moment où le mec juste vomit parce qu'il a trop bu. Et à chaque fois, le mec recommence à mourir. Et là, il y a la musique qui repart de plus en plus fort. À la fin, t'entends même plus en fait, les bruitages tellement la musique est forte. Mmh. Et ça se moque vraiment de cette utilisation-là.
Mais je pense vraiment c'est ça, c'est que nous on se sert de la musique comme d'un outil et pas comme d'un objet artistique ou d'une œuvre. La musique on s'en sert pas pour communiquer en fait.
Mais encore une fois, j'ai rien contre l'utilisation de la musique tant que telle, hein, ça peut se faire.
Alors par contre la musique qu'on utilise, c'est jamais de la musique ou rarement de la musique de film, pour une raison qui est simple.
C'est qu'elle est déjà connotée.
La musique de film est déjà connotée.
C'est totalement logique.
Et deux, elle est déjà rythmée en fait, parce que le compositeur la compose sur les images du film en théorie.
Sauf si on s'appelle Philip Glass, mais.
Voilà, sauf si on s'appelle
Philip Glass.
Bisou pour vous, Monsieur Philip Glass. Je vous aime beaucoup, profondément.
Tu as vu Koyaanis Katsi?
Pardon?
Tu as vu Koyaanis Katsi?
Non.
Nakoi Katsi?
Non.
Powa Katsi?
Non.
Bon. Alors, tu n'es pas une vraie fan de Philip Glass. Ce sont des films, en fait, où il n'y a pas du tout de paroles. C'est que la musique de Philip Glass.
Oh mon Dieu.
Et les images de...
J'irai jamais voir ces films.
Et pourtant,
c'est
puissant.
Il faut voir Koyaanis Katsi.
Et bon, Koyaanis Katsi, s'il y en a qu'un seul à voir.
La suite...
Koyaanis Katsi, c'est vraiment énorme. Vraiment, vraiment. Bon, bref.
Oui, passons.
Passons, mais ouais, non, c'est... Et donc, ce qu'on utilise surtout, c'est de la musique, au final. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas pour toi, Tom, c'est de la musique de jeux vidéo, en fait.
Moi, la musique, vu que je l'utilise rarement, je prends de la musique, par exemple, quand on fait du Cthulhu, c'est toi qui ramènes les musiques, et c'est classé, je prends la musique, je mets en fond, parce que moi, je m'en sers pas.
Ouais,
je me sers pas de la musique.
Ouais, c'est vrai jamais. Que c'est vrai. C'est, vrai voilà. Que c'est plutôt
c'est pareil, en plus, c'est d'une part, c'est un travail à donner, dire sélectionner ses musiques. Et si on compare, par exemple, le jeu de rôle par rapport à un film, il y a un film, l'idée, c'est de transférer une image par la musique et par les images.
Ouais.
Dans le jeu de rôle, vu que tout le monde est moteur de création, tu vas plus transmettre tes sentiments par la façon dont ton personnage va réagir à une scène. Donc la musique ne doit pas être pour moi trop présente. Mais c'est vrai qu'en utilisation, on met des blancs et qu'on va mettre une musique pour accompagner une scène spécifique, donc à des moments donnés, je pense que là, la musique peut être utile.
Oui.
Mais c'est vrai que moi, je ne suis pas quelqu'un qui utilise la musique. Moi, j'écoute très peu de musique. Donc,
D'accord.
Moi, dans les crimes, j'avais mis de la musique concrète parce que je trouvais ça rigolo. Voilà.
La musique concrète, tu trouves ça rigolo ?
Ouais, grave.
C'est vrai que c'est pas mal.
Pourquoi la musique concrète ? Ah bah oui, pour le steampunk.
Ah bah oui, pour le steampunk, la musique concrète, moi je trouvais
c'est quoi
nickel.
La musique concrète ?
C'est l'ancêtre, on peut dire ça comme ça, de la musique électronique moderne. Macha.
Attention. Attention, la vraie définition de la musique concrète, c'est de la musique qui est faite avec des bruitages enregistrés en acoustique.
Exactement. Okay.
C'est-à-dire, on prend un microphone et on enregistre des bruits dans l'environnement ou qu'on crée soi-même.
Entendre des bruits de pas ou des trucs
voilà,
comme ça.
Voilà, on va faire tomber des billes sur une table, on va créer plein de bruits. Et ensuite, on va composer avec ces bruits.
Pour ceux qui ont vu les Tontons Flingueurs, c'est la musique de Monsieur Antoine. Les instruments de ménage.
Dans voilà, ça se rapprocherait presque, je dis bien presque, hein. Mais de la musique que tu pourrais trouver dans Electroplankton, où certains sons en fait sont juste des bruits.
Ah, Electroplankton, c'est
tu crées quelque chose.
Alors attention quand même, il faut être bien spécifique, c'est pas des bruits synthétisés, c'est oui, très exactement. Spécifiquement oui, des bruits presque, acoustiques. Mais,
ouais, d'accord. Ok, c'est des ok, impeccable. Très, très, très bien. Oui, donc comme je disais tout à l'heure, pour revenir à ce que je voulais dire, c'est qu'on utilise très peu de musique de film, plutôt de la musique de jeux vidéo, pour une raison qui est très simple, c'est qu'il y a moins de variations sur les musiques de jeux vidéo, dans la mesure où elles sont faites pour un niveau donné. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui.
C'est-à-dire que tu as le côté... bon,
ça peut
là,
se répéter
vous êtes,
sans fin.
Vous êtes dans, voilà,
ça peut dépend se répéter. Quel, ça dépend quelle musique.
Ça dépend, bien sûr. C'est pas le cas de toutes les musiques de jeux vidéo. Mais la plupart, en tout cas, des musiques de jeux vidéo que l'on utilise, nous, sont des musiques qui peuvent se répéter indéfiniment sans choquer l'auditeur. Enfin, sans choquer... Comment on dit ? On dit pas un auditeur pour la musique ?
Si, bien sûr.
Je savais pas. Auditeur, je croyais que c'était propre à la radio. Mais en tout cas, on peut, ça se répète comme ça. Et puis, ça, c'est une ambiance donnée. Il ne va pas y avoir d'un coup une surprise. Les seules musiques qu'on utilisait comme ça, un petit peu surprenantes, c'était encore les musiques d'Alien. Où tu entends des pointes de cuivre, on va dire.
Ah, qu'est-ce qu'elles m'ont foutu les boules pendant qu'on jouait.
Voilà, parce que ça, en fait, les musiques sont très très longues. Il ne se passe rien, en tout cas. Du point de vue, parce que quand tu parles autour, on n'entend pas en fait les petits sons, les petits bruits. Mm-hmm. Ils sont juste là pour l'ambiance. Et de temps en temps, tac, un cuivre qui explose et qui fait sursauter tout le monde. Ça, c'est super agréable. Mais voilà, c'est à peu près les seules musiques qu'on utilise, c'est des musiques de jeux vidéo.
Alors, par exemple, justement, tu parlais de Metroid tout à l'heure.
Ouais.
Dans Super Metroid, la bande originale, c'est le parfait exemple de justement comment les silences peuvent mettre en valeur la musique. C'est que le jeu se passe pratiquement en silence.
Mmh.
On entend les bruits de pas, donc c'est super angoissant parce qu'on les entend très très fort et on n'entend rien d'autre, on entend des petits bruitages électroniques.
Ouais.
Et de temps en temps, il y a un morceau musical qui intervient.
D'ailleurs, c'est...
Et qui en gagne toute son importance en fait, parce qu'il y avait du silence avant.
C'est vrai qu'en plus, le fait que les sens du personnage soit accru,
mm-hmm.
ça stimule vraiment une espèce de sensation de terreur, comme si l'adrénaline montait et il y a ce côté... c'est vrai que Metroid, moi en tout cas, cette BO, mon jeu a été entièrement écrit sur cette musique. C'est effectivement ce silence-là, au tout début, quand on arrive sur la planète, juste des sons longs, plaintifs, et puis on n'entend plus rien, sauf parfois de l'orage et le bruit de la pluie, qu'ils ont réussi à simuler. La Super NES, qu'est-ce qu'elle avait ? Elle avait des burnes. Oh là, c'est hallucinant.
La savante utilisation de bruitage et de silence qui donne toute sa valeur à la musique. Alors que s'il y avait de la musique tout le temps, ça ne serait pas du tout pareil.
Ah, mais c'est vrai que ces musiques-là, en tout cas pour l'ambiance, elles sont vraiment, vraiment, vraiment au top. Quoi. Qu'est-ce qu'on utilise d'autre comme musique d'ambiance ? Pour Cthulhu, par exemple. C'est toi qui avais ramené un CD, là, Instant Inquiet.
Alors, Cthulhu, j'ai récupéré effectivement un CD donc, qui a été fait... Par une maison d'édition de jeux de rôle, et c'était des musiques spécifiques d'ambiance.
Mais tu trouvais pas que c'est justement, il était raté ce CD ? J'avais trouvé en fait, alors le musicien qui l'a composé et tout, il y avait des super musiques dedans, mais c'était pas pour du jeu de rôle. Je pense que le gars, il avait voulu illustrer l'univers de Cthulhu.
Je pense surtout qu'en fait, ce qui a été fait sur ce CD, c'est qu'ils ont pris des musiques de différents albums.
Ouais.
Je suis pas sûr qu'ils ont été créés exprès. Je pense que c'est une compilation.
D'accord.
Pour Cthulhu, il y a Alone in the Dark. Hein.
Il y a du Alone in the Dark qui a été pris.
Excellent. Le 4.
Voilà. Il y a, vu que nous, on joue beaucoup en 1920, beaucoup de musiques ont été prises à Bioshock.
Ouais. Oui, c'est vrai. Une petite musique, on va dire...
petite musique de tranquille, de chant.
Ouais, non, ça, c'est pas mal.
Mais voilà, je suis pas la bonne personne à qui demander.
Un hommage aux musiques de Braid.
Ah. Oui,
ouais,
que j'aime beaucoup.
Jamie Seaver.
Voilà, notamment.
Jamie Seaver.
Et certaines, à mon avis, peuvent largement être utilisées en jeu de rôle.
Absolument.
Là, on entre dans... par exemple, pour Agone, pour un univers comme celui d'Agone.
Pour une très belle bande sonore. Ouais. Et en plus, c'est donner des sous indépendants, si vous pouvez... Si vous pouvez leur choper leur CD, c'est chouette.
En plus, c'est pas cher. Franchement, j'ai acheté trois CD à Jamie Seaver pour 30 euros.
Mais alors attention, je ne sais pas si vous avez vu l'oscillation dédiée à Braid. En fait, la grande majorité des morceaux qui figurent dans Braid n'ont pas été écrits spécialement pour le jeu.
Ouais.
Mais ont été en fait composés par Jamie Siebel auparavant. Et il a juste pioché dans sa collection de compositions.
Bah, il a bien fait.
Il a bien fait. C'est très très bien réussi.
Mais ouais, non. Enfin, il y a une autre femme aussi, une autre soliste, je crois.
Il y en a trois, en fait.
Il y a trois.
Il y a trois solistes différentes. Et donc, il y a à peu près une moitié qui vient donc de la collection personnelle du développeur du jeu.
Mm-hmm.
Et l'autre moitié vient de ces trois solistes.
Et comment ça se fait qu'il ait eu le droit comme ça de piocher ? Il aura écrit, il aura dit...
Non, je me suis en fait un peu mal exprimée. Donc, il a pioché dans sa propre collection, parce qu'il est compositeur aussi, le développeur du jeu.
D'accord.
Me demandez plus son nom, je ne sais plus. Et l'autre moitié, il a acheté. Il est allé voir sur un site de musiciens indépendants et il a choisi la musique là-bas.
D'accord, ok.
Donc c'est tout légal.
Ouais, bah moi, en tout cas, quand je lui ai commandé les CD, je lui ai dit d'où ça venait. Hein. Je lui ai dit, hop, ça vient de Braid. Mais ouais, non, c'était...
C'est des choses qu'on peut écouter. Mine de rien, pour ceux qui veulent faire répéter les musiques, ça se répète quand même assez bien. Si vous voulez une musique d'ambiance assez calme,
ouais.
Et voilà quoi. Moi je trouve que c'est des très très belles musiques et il y en a certaines qui, enfin, faut les écouter.
Moi je trouve quand même qu'il y a un héritage en tout cas dans tout ce qu'on dit là par rapport à la musique et le jeu de rôle. Imaginons, allez, soyons fous, le cinéma n'a jamais existé. Est-ce que alors bon, si le cinéma, enfin, je pense que si le cinéma n'avait jamais existé, je pense que le jeu de rôle n'aurait pas été créé. J'ai
du
mal
à
y croire.
C'est pas vrai, notamment parce que Wagner et c'était pas le seul, avait le désir de faire un jour un art total.
Ouais, oui.
Avec l'image, la peinture, etc. Et je pense que de toute façon, ce serait arrivé.
Macha.
Je pense que tu es totalement. Tu oublies complètement le théâtre, qui pour moi est le véritable ancêtre du jeu de rôle. Et le théâtre, ça date anciens Grecs. Il y avait déjà de l'accompagnement musical pour les pièces de théâtre des anciens Grecs, qui commentaient en fait en improvisation ce qui se passait sur scène. Et ça, c'est l'ancêtre de l'opéra.
C'est vrai. Exactement. Cependant, ça. Encore une fois, dans Les Forges de la fiction d'Olivier Cayrac, qui est un des ouvrages sociologiques de référence sur le jeu de rôle, Olivier soumet l'idée que si le jeu de rôle n'a jamais existé auparavant, avant les années 60, le jeu de rôle c'est un phénomène très récent, ça date des années 70. Si vraiment le théâtre et les Grecs étaient l'ancêtre du jeu de rôle, pourquoi est-ce que le jeu de rôle ne serait pas apparu avant ?
Je ne dis pas qu'ils sont l'ancêtre, mais je dis que
non, mais
le cinéma n'est qu'une retransmission, enfin une traduction du théâtre et de l'opéra sur un écran.
En fait, et de toute façon, justement,
je suis pas d'accord avec toi sur un point.
C'est ce que je suis juste en train de présenter la théorie d'Olivier Cayrac.
Dis que d'accord pour le cinéma, c'est peut-être une raison, mais peut-être le fait que l'éducation ait été là pour donner à beaucoup plus de personnes une culture commune.
Mais c'est ce qu'a dit Olivier Cayrac. Justement, si tu me laissais finir, j'aurais eu le temps de le dire. C'est que Olivier Cayrac dit justement que le cinéma apporte un seuil culturel commun pour que des gens puissent se mettre d'accord avant une partie sur ce à quoi on va jouer. Et
mais ce seuil culturel commun, tu n'as pas forcément à l'avoir par le cinéma.
Mais bien sûr. C'est la grande distribution. Mais c'est la grande distribution et le fait que beaucoup de gens aient des références culturelles communes qui peuvent permettre l'existence.
Le socle culturel commun, il vient surtout de l'éducation et le fait que depuis Jules Ferry, il y a de plus en plus de gens qui lisent à l'école les mêmes références culturelles.
Jules Ferry, c'est en France. Le jeu de rôle a été inventé aux États-Unis.
Il se trouve que dans le même temps, aux États-Unis et un peu partout dans les pays dits occidentaux, c'est quand même l'endroit où s'est développé le jeu de rôle, dans le même temps, un peu partout dans ces pays occidentaux, l'éducation a commencé à se généraliser et les mêmes enfants ont lu exactement les mêmes livres et ont accès aux mêmes cultures.
Mais ce que je voulais dire, c'est donc tu penses, la réponse m'a été un peu donnée par vous tous. C'est pas le débat, c'est pas de savoir comment le jeu de rôle a été créé, etc. On s'en fout. Ce que je voulais juste savoir, c'est est-ce que vous pensez que le cinéma a lié la musique aux images et du coup a incité les joueurs de jeux de rôle à rajouter de la musique dans le jeu ? Maintenant, Macha m'a répondu non avec le théâtre, etc. On avait déjà mis l'idée en musique. Thomas ?
Le seul truc que j'ai à dire, c'est qu'effectivement, je pense que pour la plupart des rôlistes, c'est le cinéma qui a permis en fait, d'implanter la musique dans le jeu de rôle, puisque avec le cinéma, la télé, dans nos vies de tous les jours,
on a pris l'habitude. Rome, c'était pas ça. C'était ta question, c'était de savoir si ça serait encore le cas aujourd'hui, si on utiliserait vraiment la musique, si le, jeu, si le cinéma n'avait jamais, n'avait jamais existé.
Je suis aussi d'accord que...
Alors, excusez-moi, elle était mal formulée. Elle était mal formulée. Ce que je voulais, ce que je vous demandais, c'était...
Pardon, Thomas, tu es
Thomas, vas-y.
Non, en fait, j'aurais juste voulu finir ce que je voulais dire.
Bien sûr, Tom,
je voulais juste casser le présentateur.
Donc je disais, oui, donc effectivement, dans l'utilisation de la musique dans le jeu de rôle, je pense que pour la le principal, ça vient du cinéma et de la télé, parce qu'on a pris l'habitude d'avoir de la musique pour différentes scènes. Je pense que, même sans être rôliste, je pense que tout le monde s'est dit « Ah, ce serait sympa de se balader dans la rue, dès qu'il arrive un truc, on entend un « tin-tin-tin-tin ».
Grave.
Enfin, entendre de la musique en fonction de certaines scènes. Mais c'est pareil, je pense que nous, d'un point de vue culturel, en tout cas pour moi, parce que je n'ai ni au théâtre ni à l'opéra, moi je regarde toute cette culture-là, j'ai vu par le cinéma, la télé.
Oui.
Maintenant, si ça n'existait pas, je pense que les gens seraient attirés par le théâtre, ils iraient à l'opéra. Donc, voilà. De toute façon, ils auraient cette habitude d'avoir de la musique dans la vie de tous les jours. Et donc, ils pourraient prendre comme exemple, effectivement, des morceaux d'opéra ou
donc,
de théâtre.
Donc, tu penses que même sans cinéma, à partir du moment où la culture est popularisée, c'est-à-dire que tout le peuple a le droit d'aller au théâtre et à l'opéra et donc qu'il voit des images mises en musique, si on fait du jeu de rôle, on mettrait de la musique.
Je dirais même encore plus, je pense qu'on pourrait avoir, on a eu plus facilement l'envie de mettre de la musique dans le jeu de rôle avec le système du baladeur. Le fait que tu puisses te balader dans la rue et avoir tout le temps de la musique sur toi, ça te permet de réfléchir. Parce qu'avant, la musique, c'était que chez toi.
D'accord. Okay.
Quelqu'un, quand tu sortais, t'avais plus de musique.
C'était ça ma question, bien sûr. Hein. C'était pas. Désolé de l'avoir mal formulé. Là, aujourd'hui, j'ai deux femmes en face de moi. Elles sont en colère, elles sont dans des fauteuils. Moi, je suis tout seul sur ma chaise qui gère.
Je vais pas t'aider.
Elles me font peur.
Elles me font peur.
Super.
Thomas, aide-moi, je sais
t'es
pas.
T'es dans ta merde, tu te démerdes.
Ah, merci, ça sert à ça, les copains. Bon.
C'est vrai que pour une fois, deux filles, deux garçons. Écoute, super.
Ça sent les parties animées ce soir.
Ça va être sympa. Eh bien, justement, on va vous quitter. On va vous laisser avec la Mitty du Snake.
Tidus Snakehead ? Oui, Tidus Snakehead, c'est ça. C'est ton nouveau surnom, Tidus. Voilà.
Tidus Snakehead, Tidus maintenant Snakehead. Je vais comme ça.
L'animateur nu de Play.
L'animateur nu de Play vous invite à l'écouter dans sa prochaine émission. Tidus Snakehead Kraft sur
Mag.
Play.
Kraft Mag
tout nu.
Allez, on vous laisse avec Starcraft et Tidus Snake. À bientôt tout le monde.
Salut. Bonne soirée.
Au revoir.